Voilà, donc vous écoutez toujours l'émission de Ralfron sur Fréquence Paris Pluriel. On reçoit aujourd'hui Nona Meyer qui vient de publier Ces Français qui votent FN. C'est aux éditions Flammarion dans la collection Documents. Alors on va pas vous prendre pour Madame Soleil, donc on va essayer d'éviter, même si on est juste à la veille des élections, de faire trop de perspectives sur ce que pourraient être les résultats. Et on prendra les sondages pour des sondages, donc rien de plus. Et par contre, votre livre retrace de manière large l'histoire du Front National depuis 1984, depuis sa première apparition forte. Est-ce qu'on pourrait rapidement, alors je ne sais pas si c'est très facile, parler de l'évolution du Front National, faire un petit peu le point sur l'évolution du Front National de 84 à 97? Et donc j'ai lu que vous distinguiez trois phases principales dans les scores électoraux du Front National.
D'abord, il y a avant même 84, il faut dire que ce parti est créé en 72, hein, et que pendant 12 ans, il va faire des scores confidentiels, il ne va pas réussir à dépasser 1% des suffrages exprimés. Alors 84, c'est le début de la percée électorale aux élections européennes. Il passe de 200 000 voix aux élections de 81 à plus de 2 millions de voix à ces européennes. Donc ça, il démarre. Et puis, la troisième phase, si vous voulez, elle est à partir de 1988. C'est celle que j'ai le plus précisément étudiée, qui va de 1988 à 1997. Pendant 10 ans, il tourne aux alentours de 15% des suffrages exprimés. On arrive à un plateau, à toutes les élections nationales. Mais entre 88 et 97, il y a un changement fondamental, et celui-là se produit en 1995. Il y a un tournant populaire. C'est très simple, de 88 à 95, c'est, pour aller vite, les gens d'en haut. Plus on se situe haut sur l'escalier social, plus on a de revenus, plus on a de patrimoine, plus il y a de chances qu'on vote pour le Front National. À partir de 1995, c'est radicalement l'inverse. C'est les gens d'en bas. Moins on a de revenus, moins on a de patrimoine, plus on a le sentiment d'appartenir aux petits, aux défavorisés, on s'engrande. Et surtout, plus on est lié au monde ouvrier, plus on vote pour le Front National.
Alors, cette évolution sociologique de l'électorat du Front National, il correspond dans quelle mesure est-ce qu'il correspond au changement des axes programmatiques au sein du Front National et dans quelle mesure il correspond à une aggravation de la situation sociale?
Disons que les deux se suivent et s'accompagnent. Hein. On peut dire que le tournant social dans le programme du Front National, en particulier sur le plan des mesures économiques et sociales, il apparaît dès 1992, quand Bruno Maigret lance ses 50 mesures sociales. Et il est confirmé dans le programme du Front National, le gros pavé qui fait 426 pages, 300 mesures, hein, le programme de 1993. Et là, on voit clairement qu'en contradiction avec son programme antérieur, qui était plutôt teinté de libéralisme économique, il mêle les deux aspects dans son programme. Il est pour l'allègement des charges sociales des entreprises, par exemple, mais en même temps, il défend le SMIC, il défend un revenu minimum, il défend les droits des salariés officiellement dans ce programme de 1993. Et il va renforcer cet aspect social de son programme à partir des élections de 1995, quand il voit la percée qu'il a réussi à faire dans le milieu ouvrier. Il faudrait peut-être rappeler l'importance de cette percée dans le milieu ouvrier, parce que de 88 à 97, la catégorie sociale où le Front National a le plus progressé, c'est les ouvriers. Et si on prend un indicateur large du monde ouvrier, pas simplement le fait d'être ouvrier soi-même, mais si on compte le nombre de liens qu'une personne peut avoir avec le monde ouvrier, il est ou elle est ouvrière soi-même, son père est ouvrier, son conjoint est ouvrier, plus on a d'attaches, c'est mécanique, plus on vote pour le Front National. Et les chiffres sont spectaculaires, puisqu'en 1997, si vous n'avez aucune attache avec le monde ouvrier, le niveau du vote Front National, il tourne autour de 13%. Mais si vous avez trois attaches avec le monde ouvrier, vous l'êtes vous-même, vous êtes né dans ce milieu, vous êtes marié dans ce milieu, on arrive à un tiers. Et si on prend juste les jeunes qui sont dans ce cas, les nouvelles générations qui arrivent à l'âge de voter, vous avez 47% de vote FN. Autrement dit, on frôle la majorité absolue dans ce noyau dur de la classe ouvrière qui était précisément le fer de lance de la gauche et du communisme dans les années 70. C'est pour ça que je préfère à l'expression de gaucho-lepénisme qui est souvent utilisée pour désigner
celle
ce tournant.
Celle qu'a popularisé Pascal Perrineau.
Voilà, qu'il a utilisé, mais qu'il a utilisé dans un contexte très précis, et depuis le terme est galvaudé, hein, l'emploi à propos de tout et de n'importe quoi. Mais on peut en discuter ensuite, parce qu'il y a vraiment un débat de fond là-dessus. Mais je préfère la notion d'ouvriéro-lepénisme, parce qu'elle montre bien que plus on est intégré au monde ouvrier aujourd'hui, plus on a tendance à voter pour le Front National.
Vous parlez également dans l'évolution du vote FN de l'aspect géographique de cette évolution-là. Sud-Est, etc. Comment vous situez ça dans le temps, entre 84 justement et l'arrivée?
Ça n'a pas bougé. Ouais. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très grande stabilité de la géographie électorale du Front National. Ce qui change, c'est le niveau du vote FN. Il y a des phénomènes de rattrapage, mais on a appelé, c'est la fameuse ligne Le Havre-Valence-Perpignan. À l'ouest de cette ligne, surtout dans le Grand Ouest, dans un monde plus rural, là, le vote FN ne dépasse pas les 10%, tandis qu'à l'est de cette ligne, c'est-à-dire dans le nord et le Pas-de-Calais, dans l'est, l'Alsace, dans le sillon rhodanien et surtout dans la région méditerranéenne, là, il dépasse parfois allègrement les 30%. Et j'ai essayé effectivement dans ce livre de prendre en compte, de mélanger les deux facteurs, c'est-à-dire pour comprendre pourquoi on vote, il faut savoir qui vous êtes, quel est votre âge, votre sexe, votre diplôme, votre religion. Mais il faut aussi savoir où vous habitez. C'est-à-dire qu'il faut savoir à la fois qui vote et où on vote. Et c'est important parce que le territoire où l'on réside a des caractéristiques sociales, politiques, qui influencent notre manière de voter. Et un ouvrier qui habiterait dans le Grand Ouest, il a beaucoup moins de chances de voter Front National qu'un cadre qui habiterait en région méditerranéenne. Donc il faut combiner les deux. Et les deux ont un effet. Et dans l'environnement, il y a à la fois le degré de visibilité, de structuration d'implantation partisane du FN qui joue, parce que ces zones à l'est de la ligne Le Havre-Valence-Perpignan, c'est des zones surtout dans le Midi méditerranéen où on a, parallèlement à l'implantation électorale, une implantation partisane forte. Et donc, c'est plus facile dans un environnement où le FN est visible et présent de voter pour ce parti. Puis la deuxième caractéristique qui influence le vote des électeurs, parce que les immigrés sont la bête noire, hein, le bouc émissaire du Front National, il y a un lien entre la présence des étrangers, des immigrés, parce que les deux cartes se superposent presque exactement, et le vote pour le Front National. Mais il faut bien expliquer pourquoi. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'avanceraient certains, l'idée qu'il y aurait des problèmes de voisinage, ce que Jacques Chirac avait élégamment évoqué en parlant de la famille qui habite sur le même palier, le bruit et les odeurs. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt, quand on fait des analyses fines, on voit que ce n'est pas le fait d'habiter à côté, ce n'est pas le voisinage, le contact quotidien. C'est plutôt d'habiter dans des zones où les étrangers sont plus visibles. Et à ce moment-là, c'est comme un stimulus qui déclenche plus facilement le passage à l'acte, mais pas chez n'importe qui, chez ceux qui, au départ, sont plus ethnocentriques. C'est la manière sociologique de baptiser le terme plus courant de racisme, c'est-à-dire les gens qui sont repliés sur leur groupe d'appartenance et rejettent tout ce qui leur paraît différent, à commencer par les immigrés.
Si on revient sur l'évolution du Front National entre 88 et 95, entre ces deux présidentielles-là, en 88, il me semble bien qu'il y avait quand même une très forte proportion de petits commerçants, de petits bourgeois déclassés. Qu'est-ce qu'ils deviennent dans l'électorat du Front National? Ils restent à la base ou est-ce qu'ils retournent vers une droite plus classique?
Il y a un peu des deux, mais disons que sur ces 10 dernières années, les deux électorats privilégiés du Front National, c'est les petits commerçants et les ouvriers. Mais selon le contexte, c'est un peu plus chez les ouvriers ou un peu plus chez les petits commerçants artisans. Ça reste une zone de force, mais c'est vrai que dans certains contextes, comme celui de 95, une partie d'entre eux va revenir à la droite classique. Mais il reste les deux catégories socio-professionnelles où le Front National fait ses meilleurs scores. Mais là où ça progresse de plus en plus, alors que c'est plutôt stable chez les petits commerçants artisans, c'est dans le monde ouvrier.
Une autre des catégories qu'on pourrait voir aussi, c'est celle des chômeurs. On ne peut pas totalement l'inclure dans le monde ouvrier. Comment réagit, on voit qu'elle réagit relativement bien au Front National.
Ça dépend des élections. Parce que là encore, d'abord, la première caractéristique des chômeurs, le premier effet du chômage, c'est le repli sur soi-même, c'est l'apathie politique, c'est la tentation de s'abstraire complètement du jeu électoral, de se dire il n'y a rien à faire, c'est même pas la peine de voter, c'est même pas la peine d'aller voter parce que personne ne pourra faire pour moi. C'est chez eux que le taux de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, d'une part, et de celles qui s'abstiennent au moment des élections, c'est là que ces taux sont les plus élevés. Hein, ça, c'est le premier résultat quand on est chômeur. On doute de la capacité du bulletin de vote à changer quelque chose à sa situation.
On reviendra peut-être après sur la question qui est précise de l'abstention.
Oui, mais leur vote. Alors, si vous dites leur vote, ça dépend beaucoup des élections. Alors, en 1988, ils ne votent pas du tout pour le Front National, proportionnellement plus que les autres catégories. Au contraire. En revanche, en 1995, il y a une percée du vote FN, du vote Le Pen en l'occurrence, chez les chômeurs. Et en 1997, ceux qui sont inscrits et qui vont aller voter se tournent plutôt vers les partis de gauche. Donc c'est très variable selon les élections. On ne peut pas dire qu'une fois pour toutes, le vote des chômeurs est scotché au Front National. C'est faux.
Il y a une évolution que vous signalez à un moment quand même par rapport à cette question d'abstention, etc. C'est qu'à un moment donné, le FN arrive à capter les votes de tous ces fameux gens qu'on appelle les ninis ou ceux qui se décident tout vraiment au dernier moment. Qu'est-ce qui fait qu'ils se décident au dernier moment pour le FN dans ce cas-là?
Alors justement, et à quel moment? Oui, vous avez raison. Mais les ninis, j'ai utilisé cette expression parce qu'une de nos questions classiques, ça demande aux individus...
À l'oral, ça fait quand même léniniste.
Oui, léniniste. Léniniste, c'est ceux qui se définissent comme ni de gauche ni de droite. Ils ont le choix entre de gauche, de droite ou ni de gauche ni de droite. Et il y a une proportion croissante de Français qui se définit comme ni de gauche ni de droite, ce qui signifie qu'ils ont le sentiment d'appartenir à aucun camp. Et c'est chez ces électeurs-là, qui n'ont pas d'attache partisane, qui n'ont pas de point de repère politique, qui sont déboussolés, désemparés, c'est là que le Front National réussit à capter des électeurs. Parce que si on est déjà fermement attaché à un camp, à la droite ou à la gauche, alors là, le vote pour le Front National a beaucoup de mal à percer. Et c'est pour ça qu'il perce aussi souvent, et surtout en 1995, chez les jeunes électeurs, ceux qui arrivent à l'âge de voter, ceux qui n'ont pas encore un ancrage politique, des repères politiques fixes. C'est ceux-là que le Front National attire en priorité.
Et est-ce que c'est une constante? Parce qu'on peut distinguer, même parmi les trois périodes que vous avez, il y a le moment au début 1984, où le FN n'a pas spécifiquement de programme, où c'est vraiment uniquement la chasse aux immigrés ou un espèce de libéralisme. Et après, il y a un moment, il y a toute la bande de Maigret qui arrive et qui donne un véritable programme écrit, avec des thèmes qui sont construits. Et est-ce qu'il y a dans ces deux périodes-là, du FN, est-ce qu'il y a une différence parmi les lignes?
Oui, tout à fait, parce que comme le tournant populaire se dessine au niveau électoral à l'élection présidentielle de 1995, comme vous avez plus d'ouvriers, plus d'électeurs sans revenus, sans patrimoine, eh bien c'est chez eux que la proportion de ninistes est la plus élevée. Donc vous avez une forte hausse de la proportion de ces fameux ninistes. L'électorat de 1984 est relativement plus bourgeois, plus aisé, plus politisé. Et avec surtout en 1984, le profil social et le profil politique vont ensemble, des électeurs qui viennent de surreprésenter chez les électeurs de la droite classique, qui profitent de ces élections de 1984, qui sont des élections européennes, sans enjeux, sans conséquences politiques immédiates sur la vie intérieure, pour émettre un vote de protestation, de ras-le-bol contre ceux qu'ils appellent les socialo-communistes. Donc l'électorat de 1984 est très typé. Déjà, le Front National prend des électeurs dans toutes les catégories de la population. Ça, il faut le souligner. Hein, ça n'a jamais été un vote réservé à une seule catégorie sociale. Mais historiquement, c'est l'électorat le plus bourgeois. Et on le voit bien quand on travaille chez les petits patrons, chez les indépendants. Ce ne sont pas les plus petits qui votent Le Pen en 1984. Plus la taille de l'entreprise augmente, plus on aura tendance à voter Le Pen. Donc, en cela, on peut dire qu'il est relativement plus bourgeois. Et les ninistes, se développent au sein de l'électorat FN parallèlement à sa percée dans le monde ouvrier, à partir du moment où, dans le monde ouvrier, il y a un scepticisme croissant à l'égard de la gauche et de sa capacité à les représenter.
Si on revient un petit peu sur l'évolution des raisons et des thèmes qui vont être fédérateurs autour pour amener un vote Front National, on voit que dès le départ, il y a la figure centrale qui est celle de l'immigré. Et on voit aussi qu'il y a une évolution, d'autres thèmes développés par le Front National vont s'accumuler à celui de l'immigré, voire même parfois ne la figure de l'immigré, le danger de l'immigration va perdre une espèce de leadership de la raison pour laquelle on vote Front National. Ça se déclenche à quel moment comment évolue cette figure de l'immigré?
En tout cas, effectivement, la figure de l'immigré, elle est très commode parce qu'elle cristallise toutes les peurs de cet électorat. Les immigrés, c'est les responsables du chômage, c'est les responsables de l'insécurité, de la criminalité, de la délinquance, de la drogue. Ils sont responsables, ils sont chargés de tous les malheurs du monde. Mais c'est à partir de 1995, très précisément, qu'on voit qu'un autre thème devient presque aussi important que ce rejet des immigrés, des autres, des gens qui ne sont pas comme nous, les vrais Français de souche. À partir de 1995, il s'y mêle un désenchantement à l'égard des élites, voire une critique à l'égard du fonctionnement même de la démocratie. Et ça, c'est une dimension nouvelle, une dimension importante, et qui est très liée à la prolongation de la crise économique, qui est en train de saper quelque part la confiance d'un certain nombre de Français dans les capacités des hommes politiques à apporter un remède à la crise. Et là, ça devient une motivation importante. Très clairement, on le voit à partir de 1995. Critique des élites, désenchantement à l'égard de la classe politique, et donc vote des ninistes, parce que justement, ils ne font plus confiance aux hommes politiques, ni de gauche, ni de droite.
Ceci dit, est-ce que vous pensez que le thème de l'immigration reste le noyau un peu des motivations pour votre TFN, ou ça rapetisse petit à petit
Non, ça ne rapetisse pas. Ça reste l'élément structurant, justement, parce que la figure de l'immigré condense toutes les peurs et tout le ressentiment. Mais il y en a d'autres qui sont à côté. Et là, on en a dit deux, mais il y en a d'autres, hein, parce qu'ils ne votent pas sur un enjeu unique. On ne vote jamais pour une seule chose. Il y a l'immigration, mais il y a aussi, et surtout chez les plus âgés, le désir d'ordre, d'autorité, hein, le sentiment d'insécurité qui joue très fort, en retrait, mais ça joue également. Et il y a aussi, bien sûr, la peur de l'Europe, avec l'idée que l'Europe est en train non seulement de favoriser ce que le Front National désigne comme l'invasion des immigrés, mais l'idée que l'Europe est en train de dissoudre l'identité nationale française. C'est la porte ouverte à ce que le Front National appelle le cosmopolitisme. Bref, la France n'est plus la France. Donc la dimension anti-européenne devient également une dimension importante du vote Front National.
Alors, peut-être pour en arriver à la dernière étape de l'analyse du vote Front National que vous faites, arrivé jusqu'en 97, vous définissez sur le Front National tel qu'il est actuellement quatre grands traits du vote Front National qui vont fédérer, qui peuvent expliquer ce vote-là. Alors, on peut peut-être revenir sur ces quatre grands traits.
Oui.
Alors, je peux peut-être, ce qu'on voit dans l'introduction de votre livre, c'est un vote d'extrême droite, un des traits que vous définissez dans un premier temps. L'ouvriéro-lepénisme, dont on parlait tout à l'heure, plutôt que le gaucho-lepénisme. Et puis, l'influence, la persévérance de la figure de Le Pen comme leader charismatique. Et puis, le quatrième élément, qui est le vote des hommes et la proportion moindre des femmes.
Le vote machiste, oui.
Le vote machiste. C'est marqué le vote viril.
Là. Oui, on peut varier.
Alors, est-ce que peut-être présenter ces quatre éléments et voir comment ils se conjuguent pour faire la base?
D'abord, c'est important, l'idée que c'est un vote d'extrême droite. Et quand je dis un vote d'extrême droite, ce n'est pas avec une définition essentialiste, il y aurait un contenu idéologique qui caractériserait l'extrême droite de toute éternité. Non, c'est simplement une définition relative. Le Front National, en France, est perçu comme le parti le plus à droite. Chaque fois qu'on demande dans un sondage de classer les partis sur l'échelle gauche-droite, en cette position, c'est lui qui est classé le plus à droite, son chef également. Et le vote en faveur du Front National dépend étroitement de la situation de l'électeur sur cette même échelle. Ce n'est pas compliqué. Quand on va de la gauche à la droite de l'échelle, le vote FN monte de manière radicale. Hein. Donc, en cela, c'est un vote d'extrême droite. Avec juste une nuance, il y a aussi une forte hausse du vote Front National chez ceux qui refusent de se situer sur cette échelle, nos fameux ninistes. Mais sinon, il y a bien un lien entre le droitisme de l'électorat et le vote pour le Front National. Et c'est important parce que ça m'amène à gaucho-lepénisme et à ouvriéro-lepénisme. Il y a une expression qui a beaucoup de succès parce que elle flatte d'une certaine manière le sens commun, c'est celle de gaucho-lepénisme. Pour le sens commun, les extrêmes s'attirent. L'extrême gauche, l'extrême droite, c'est pareil. Dans gaucho, il y a gauche et il y a gauchiste. Et on serait de gauche, voire gauchiste, d'extrême gauche et d'extrême droite en même temps. Et c'est le terme est dangereux. Quand Pascal Perrineau l'utilise pour la première fois en 1995, il l'emploie dans un contexte très précis. L'élection présidentielle de 1995, il fait une analyse de géographie électorale et il montre que le vote d'une présidentielle à l'autre, le vote Le Pen a le plus augmenté dans des zones où la gauche a le plus baissé et qui sont des zones de vieille implantation ouvrière. Voilà. Et il montre en même temps, à partir des sondages, qu'il y a dans l'électorat Front National des anciens électeurs Mitterrand deuxième tour de 88. Donc voilà le gaucho-lepénisme. Mais à partir de là, on a fait dire à ce mot beaucoup plus. Et je crois qu'il faut revenir là-dessus, parce que ces électeurs qui ont peut-être dans le passé voté pour la gauche, mais qui votent aujourd'hui pour le Front National, ne sont plus de gauche. La très grande majorité d'entre eux, quand on leur demande de se définir, ils ne se définissent pas de gauche. Ils se définissent de droite ou de plus en plus, nulle part, ni gauche ni droite. Donc, on n'est pas en même temps de gauche et en train de voter pour le Front National. En plus, il y a un très net clivage générationnel. Ce ne sont pas, pour la majorité, des électeurs qui, hier, votaient pour la gauche. Il y en a chez les plus âgés qui ont décroché progressivement. Ils ont cru en la gauche, au Parti communiste, puis au Parti socialiste, puis ils se sont abstenus, et puis ils se sont tournés vers le Front National. Mais ce n'est pas là, ce n'est pas chez les vieux électeurs qu'on trouve le plus de vote FN. C'est chez les jeunes électeurs, les nouvelles générations, qui n'avaient pas l'âge de voter en 1981. Il y a une très nette coupure générationnelle, et surtout chez les ouvriers, chaque nouvelle cohorte, comme disent les démographes, c'est-à-dire on prend l'ensemble des gens qui sont nés la même année, toutes ces nouvelles générations qui arrivent à l'âge de voter, c'est là que d'emblée, le niveau du vote pour le Front National se situe aux alentours de 30%. Donc on a ce phénomène générationnel, tandis que les ouvriers plus âgés, la majorité d'entre eux, continuent à voter pour la gauche. Donc il ne faut pas trop simplifier. C'est pour ça que je préfère le terme d'ouvriéro-lepénisme. Parce que là, oui, c'est vrai. On assiste à une percée spectaculaire du vote Front National dans le monde ouvrier et dans le noyau dur de la classe ouvrière, la fraction la plus ouvrière des ouvriers. Mais ces ouvriers-là, ils ne se disent plus de gauche. Et certains d'entre eux, les plus jeunes, n'avaient même jamais voté pour la gauche avant. Donc je préfère ouvriéro-lepénisme à gaucho-lepénisme.
Est-ce que vous pensez que c'est général, ça, où on peut distinguer des zones géographiques ou cette question d'ouvriéro-lepénisme?
Ah ben, bien sûr, il y a dans les zones, justement, ce que mettait en lumière Pascal Perrineau. Vous prenez le Nord, le Pas-de-Calais, par exemple. C'est là que vous aviez une zone de prédilection de l'ouvriéro-lepénisme, parce que la carte de la présence ouvrière, elle est très claire en France. Vous en aurez plus dans le Nord que dans le Midi méditerranéen, où là, vous aurez en revanche une surreprésentation des petits commerçants et des petits indépendants. Vous avez une inscription géographique de ces deux électorats privilégiés du Front National, dans le Nord-Est plutôt les ouvriers et les petits commerçants artisans plutôt dans le Sud-Est.
Un des autres éléments, donc le troisième dans l'ordre où vous les présentez, des éléments déterminants du vote Front National aujourd'hui, c'est la figure de Le Pen. On en discutait tout à l'heure, ça vous a vous-même surpris de voir, alors qu'il y avait un discours ambiant qui était de dire la figure de Le Pen s'efface au profit d'une identité d'extrême droite, ou au moins d'une identité Front National. Et au cours de cette étude, ce n'est pas ce que vous constatez déjà à l'époque.
Oui, j'étais assez surprise parce que je pensais que la professionnalisation, la structuration du parti qui avait été accomplie grâce à Bruno Maigret, d'ailleurs, et à ses amis venus de la Nouvelle Droite, faisait que l'image de marque du Front National était de plus en plus présente, de plus en plus visible. Et je pensais que de moins en moins, ça serait un vote pour Le Pen et de plus en plus un vote pour le FN, pour le Front National. D'ailleurs, la proportion d'électeurs lepénistes ou frontistes qui se disaient proches du parti étaient en nette augmentation, puisque c'était 1 sur 3 qui se disaient proches du FN quand ils votaient pour ce parti en 1995. C'était 1 sur 2 en 1997. Et à ma grande surprise, quand on essaie de faire des modèles statistiques qui permettent de hiérarchiser l'effet de tous les facteurs susceptibles de conduire quelqu'un à voter pour le Front National, celui qui vient en tête à l'élection présidentielle de 1995, c'est une élection présidentielle, donc la personnalité des candidats joue, mais ce n'est pas pareil dans les autres partis politiques, c'est la personnalité de Jean-Marie Le Pen qui a un effet déterminant. C'est l'homme politique qui est le plus détesté en France. Hein. Mais il y a une petite fraction, plus large d'ailleurs que son électorat, qui a de la sympathie ou qui exprime de la sympathie pour cet homme, qu'il admire quelque part. Et alors là, on a une progression géométrique du vote Le Pen en fonction du degré de sympathie. On avait un thermomètre de sympathie qui était gradué de 0 à 100. Et plus on avait de la sympathie pour Le Pen, plus on votait Le Pen. Donc ça, c'était le premier facteur. Avant même le ressentiment anti-immigré, avant même l'attachement au parti.
Cette stature qu'il a, Le Pen, ça vous fait venir à deux remarques. La première, c'est que tous ceux qui votent Le Pen, donc il y a la figure paternelle comme ça, et c'est surtout pour les fameux ninistes dont on parlait tout à l'heure, qui ont l'impression d'être seuls au monde, que personne ne les comprend et que personne ne fait rien pour eux, qu'aucun élu ne fait rien pour eux. Ils se tournent vers lui parce qu'il est tellement rassurant.
Et puis parce qu'il a un côté grande gueule, il a un côté tonitruant, il s'impose sur la scène politique. Donc
c'est un refuge, du coup.
C'est un refuge, mais enfin, bon, sans aller faire de la psychanalyse sauvage, disons que tout simplement, il y a cet effet de leadership qui joue, c'est-à-dire les capacités à occuper la scène politique, à utiliser les médias à son profit, à incarner aussi certains milieux. Parce que Le Pen, il a un côté populaire, même quand il est sanglé dans un côté trois pièces. Bon, je veux dire, il y a quelque chose qui fait qu'il attire à lui, y compris dans l'électorat ouvrier et populaire.
Et l'autre,
le quatrième?
Non, l'autre, je parlais de remarques, l'autre remarque,
mettez-vous d'accord,
après,
oui.
Quatrième point. Ça déclenche ce que vous appelez le lien partisan, qui est une espèce de lien fidèle.
Alors là, oui, ils sont moins nombreux. Oui, il y a des tas de gens qui votent Le Pen, qui n'ont pas la moindre pour Le Pen et qui n'ont pas la moindre sympathie pour son parti. Mais ce que je notais, c'est qu'il y avait une proportion de plus en plus élevée d'électeurs du Front National qui avaient un attachement pour ce parti. Et c'est très important pour qu'un parti réussisse électoralement. Il faut qu'il réussisse à créer un lien partisan. C'est-à-dire qu'il faut que les électeurs s'identifient à ce parti. Si on s'identifie à un parti, c'est un gage de fidélité pour un parti politique. Et dans la bataille qui oppose Bruno Maigret à Jean-Marie Le Pen, le fait que le tribunal, le 11 mai, ait décidé en faveur de Jean-Marie Le Pen, qu'il sera le seul à utiliser la marque Front National, le logo, l'emblème, le signe, ça, c'est un atout décisif pour lui. Parce que FN, on connaît. MN, Mouvement National, le mouvement de Bruno Maigret, personne ne connaît. D'une certaine manière, il faut qu'il reparte à zéro, alors que lui-même avait derrière lui un groupe de jeunes cadres dynamiques qui avaient envie d'arriver au pouvoir, qui en voulaient, alors que lui-même avait recréé cet appareil partisan. C'est Jean-Marie Le Pen qui en hérite. Et ça, c'est un élément important du vote. Mais qui venait en deuxième position. Puis il y avait un dernier élément... Les femmes.
Alors, ça, c'est carrément terrifiant. Enfin, c'est même heureusement qu'il y a les femmes. Parce que oui. Vous expliquez que donc, c'est un vote largement masculin.
Oui, mâle, enfin, viril, masculin, macho.
C'est mâle de voter Front National. Et si vous donnez entre autres exemple que si les femmes atteignaient le même taux, la même proportion de vote Front National, le Front National aurait dépassé les 20% aux dernières élections.
Voilà, et si seulement les femmes votaient, alors il n'aurait jamais dépassé à peu près son niveau de 1984. Pour donner une idée, en 95, en 97, les femmes c'est 12% de vote pour le Front National, les hommes c'est 19-20. Donc il y a un net clivage. Mais là aussi c'est compliqué. Alors je me suis demandé pourquoi les femmes. Il y a des tas de raisons qui pourraient expliquer pourquoi les femmes votent moins Front National, quelle que soit l'élection. Hein. La première, c'est qu'elles vivent plus longtemps. Et donc, il y a une proportion de femmes âgées plus importante que d'électeurs âgés. Et les personnes âgées se méfient un petit peu de l'image de violence et de radicalité qu'il y a autour du FN. Mais à âge égal, les femmes votent moins Front National. On aurait pu penser que c'était parce qu'elles comptent plus de catholiques pratiquantes. Hein. Mais même... et que le message des évangiles s'inscrit en faux contre l'intolérance du Front National. À pratique religieuse égale, les femmes votent moins Front National. Et il y a finalement quelque chose qui semble être caractéristique des femmes, un refus de la violence, à la fois physique, verbale et souvent à connotation sexuelle, qui est associée au Front National et à ses discours. Simplement, il n'y a pas les femmes. Il y a différentes catégories de femmes. Et pour aller très vite, et on peut en distinguer trois. Il y a un premier groupe, c'est les femmes jeunes, diplômées, qui travaillent dans des positions de classe moyenne et supérieure, les plus émancipées, pour lesquelles il est inadmissible le discours du Front National qui prône le retour des femmes au foyer ou qui remet en cause toutes les choses pour lesquelles elles se sont battues depuis les années 60, comme le droit à l'avortement. Là, vous avez des niveaux de vote Le Pen, quelle que soit l'élection, qui tournent en dessous de la barre des 5%. Puis vous avez un autre groupe radicalement opposé, des femmes âgées, catholiques et pratiquantes, qui sont attachées à une image plus traditionnelle de la femme, mais qui refusent de voter Front National, justement parce qu'elles ont intériorisé le message des évangiles. Mais vous avez un troisième groupe, et c'est ce qui montre qu'en politique, les choses peuvent toujours bouger. Un troisième groupe de femmes, c'est les femmes ouvrières, des femmes jeunes, non diplômées, dans une situation économique et sociale catastrophique. Et pour la première fois en 1997, les ouvrières ont été aussi nombreuses à donner leur voix au Front National que les ouvriers. Comme si le fait d'être ouvrier dans le monde d'aujourd'hui, avec la crise que traverse le monde ouvrier, comptait plus que le fait d'être un homme ou une femme.
Vous dites une chose qui est assez terrifiante quand même, pour finir sur le vote FN des femmes. Vous dites que celles qui votent FN, elles ont néanmoins intégré et accepté le discours machiste du FN.
Non, justement.
Le rôle de la femme...
Non. Je
bon,
dis l'inverse.
C'est bon, moi, oui,
non, c'est ça qui est
intéressant. T'as pas vu la négation dans la phrase.
Je pensais effectivement que les femmes qui allaient voter pour le Front National, ce seraient des femmes qui auraient intériorisé le rôle subordonné de la femme, qu'elles le feraient au nom des valeurs traditionnelles, la mère au foyer, la femme au foyer. Or, justement, pas du tout. Ce qui m'a frappé, c'est que les femmes qui votent pour le FN, elles le font pour rigoureusement les mêmes motivations que les hommes, parce qu'elles ont peur des immigrés, parce qu'elles trouvent qu'on vit dans un monde d'insécurité. Elles sont exactement les mêmes motivations. En revanche, les hommes qui votent pour le Front National ont une motivation que n'ont pas les femmes. Eux votent au contraire pour que les femmes restent à la maison. Là, il y a un vote machiste, si vous voulez. Mais chez les femmes, ce n'est pas au nom de la défense des valeurs traditionnelles. Et Fiammetta Venner, qui a travaillé beaucoup sur les militantes d'extrême droite, montre que c'est pareil chez les militantes d'extrême droite. Elles n'ont pas la moindre intention de retourner à la maison. Elles veulent manier la colle, coller les affiches, faire les choses exactement comme les hommes. Donc on peut être une femme émancipée, ouverte aux valeurs féministes, entre guillemets, et voter pour le Front National, ce qui est quand même un curieux paradoxe, parce que ils viennent de tenir, et Bruno Maigret et Le Pen, des conventions sur les femmes. Et c'est un discours, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, qui explique qu'ils sont contre le féminisme. Ils sont pour des femmes féminines. Ce n'est pas tout à fait la même chose.
Mmh. Bon, j'ai un petit peu peur là, parce que j'ai peur de me tromper, mais je vais dire un autre truc. Vous me dites si j'ai bien lu ou pas. Vous distinguez également une série de doubles logiques dans les votes FN. Et en particulier, bon, il y a un thème quand même important aussi, c'est aller contre l'établissement, et contre le système, etc. Et dans une de ces doubles logiques est que les gens qui votent FN votent contre le système et contre les autres partis, la bande des quatre en particulier, mais en même temps, et surtout dans le Sud, vous le dites, ils veulent être proches de leur élu local, qui lui, pourtant, fait partie du système. C'est une espèce de double logique antithétique un peu...
Alors, il y a deux choses, là. Effectivement, il y a d'une part, vous avez raison, j'avais...
Merci.
Pardon. Ne me rendez pas plus méchante que je le suis. Non, effectivement, dans le Midi, on avait une logique de clientélisme, effectivement, où donc on attend tout des hommes politiques. Et effectivement, les expériences de gestion par le Front National d'un certain nombre de villes du Midi montrent bien qu'il y a une logique de népotisme, de clientélisme... qui est à l'œuvre et qu'on retrouve tant du côté des élus que du côté de leurs électeurs. Mais quand je parlais de double logique, c'était un phénomène encore plus large, peut-être. Je veux dire, chaque électorat à chaque élection est différent, mais si on simplifie énormément, on peut dire qu'il y a une double logique au vote Front National. Et là, ça dépasse la coupure géographique, hein, entre les deux France. C'est plutôt qu'il y a d'un côté un électorat de droite, un électorat de droite relativement aisé, relativement diplômé, en tout cas dans la moyenne, politisé, et qui vote pour le Front National, pour ses idées. Appelons-le l'électorat droitier. Et il représente en 1997 la moitié de l'électorat Front National. Et c'est un électorat qui, socialement, culturellement, est très proche de l'électorat de la droite classique. Simplement, il trouve que la droite classique, elle n'est pas assez dure, elle n'est plus la droite. Et il est conformiste sur le plan de la morale, il est conservateur sur le plan social, il est ultra-libéral sur le plan économique. Vous avez un deuxième électorat, l'autre moitié, qui est notre fameux électorat niniste, Là, c'est un électorat ouvrier, populaire, dépolitisé, complètement déboussolé politiquement. Alors lui, il est non conformiste sur le plan de la morale. Il est pour l'intervention de l'État dans la vie économique et sociale. Il est absolument anti-libéralisme économique. Et socialement, il est attaché aux droits des travailleurs, à la défense des petits et des déshérités. Et donc c'est là plutôt cette double logique du Front National, tandis que l'autre, c'était juste une référence à la situation particulière de la France du Sud-Est et les relations clientélistes qui se sont établies là-bas.
Voilà, on est toujours dans l'émission de Ralph Front avec Nona Meyer à propos de ce livre qui vient de sortir, « C'est Français qui votent Front National ». On écoute un peu de musique, Jean-Paul ?
J'aille de l'eau, les aisselles du front. Je suis celui qui danse et fait faire des bons. Je fais lever les bras et que dans nos poumons toute la nicotine en demande pardon.
Je fais le beau, je fais la révolte des basses et que dans les oreilles on en garde la trace. Je fais la nuit qui fait pas rire les notables. Où je le fais, je mets les cartes sur la table. Je fais le mix qui dégoûte pas du vote. Je la fais cool pour pas qu'on s'y casse les côtes. Et je dénonce si tu m'envoies pas dans les ronces. Je te ferai ma danse du quinconce.
Là on va, nous on est chez nous, bam bam, qu'on est goupille ou pas. Là on va, on est chez nous, là on va. Nous on est chez nous, bam bam, qu'on est goupille ou pas. Là on va, on est chez nous. De ceux qui ont appris que le respect ne s'est jamais donné mépris. Je fais les incas, les forêts perdues. Et les petits que les grands n'ont jamais vaincu.
À défaut des voiles, des 52 étoiles, je dessine à la main une troisième étoile. Je fais la marinade, des peuples métis, pas de salade. Je fais monter les épices. Je fais le chaud et tout le chagrin des cithares. Les castagnettes qui en bois. Et le peuple noir, tout ce qui nous décollera bien la tempe.
Qu'on y goupille,
mais ne sent jamais sa pampe.
Là on va, nous on est chez nous, bam bam, qu'on est goupille ou pas. Là on va, on est chez nous, là on va. Nous on est chez nous, bam bam, qu'on est goupille ou pas. Là on va, on est chez nous. Ce qui est moche et qu'on n'en parle plus. On marche dans le topo et pas de doute. Et je rajoute, allez rajoute,
allez, rajoute.
On voulait juste une seconde voir nous.
La sale bête qui dit on est plus chez nous.
Je fais la pub pour ça, je fais même le cri.
On se fout des manières, des modes et du prix. Pourvu que nos chemises à un soient réduites en éponge. On rentre torse nu, cette nuit on pourra dire
nous,
qu'on était présents et qu'un jour on avait ce qu'on avait dedans.
Là on va, nous on est chez nous, bam bam, qu'on est goupille. Là on va, on est chez nous, là on va. Nous on est chez nous, bam bam, qu'on est goupille ou pas. Là on va, on est chez nous. Là on va, nous on est chez nous, bam bam, qu'on est goupille ou pas. Là on va, on est chez nous, là on va. Nous on est chez nous, bam bam, qu'on est goupille ou pas. Là on va, on est chez nous, là on va. Nous on est chez nous, bam bam, qu'on est goupille ou pas. Là on va, on est chez nous. Chez nous, papa, qu'on est goupille ou pas, là on va, on est chez nous.
Voilà, c'était Zebda avec Nous, on est chez nous. Donc, on est toujours avec Nona Meyer et puis, voilà, on discute un petit peu de l'évolution du Front National.
Non, c'est bien, on discute un petit peu, on discute le coup.
Voilà.
On papotait, papoti papota.
Oui.
Tout à l'heure, on a mis en suspens la question de l'abstention. On pourrait peut-être y revenir et parler et puis voir un petit peu le rapport, quel type de rapport on peut faire entre l'électorat qui s'abstient, l'électorat qui vote Front National, dans quelle mesure il y a des ponts, il n'y en a pas.
Alors, ça nous ramène ça nous ramène à la double logique de tout à l'heure. Vous avez d'une part un électorat droitier, donc politisé. Lui, il s'abstient peu. Mais en revanche, notre fameux électorat niniste, ouvrier, populaire, lui, il est très tenté par l'abstention. Et en fait, on a un système de vases communicants dans un électorat populaire désemparé qui est prêt à se mobiliser éventuellement en faveur du Front National, mais dont sinon la pente naturelle serait plutôt l'abstention. Et donc, un des viviers électoraux du Front National, c'est cet électorat-là qui n'est pas très mobilisé politiquement. C'est là qu'il peut en attirer une partie.
Alors, est-ce que ce vivier de gens qui s'abstiennent mais qui éventuellement pourraient retourner aux urnes, c'est un peu le jardin privé du Front National, ou est-ce qu'il y a d'autres partis, d'autres listes ou d'autres candidats qui peuvent en bénéficier à l'occasion?
Tout à fait, parce que justement le secteur des abstentionnistes, ce sont des gens qui sont relativement mobiles, hein, qui peuvent passer d'un vote à l'autre. Généralement, vous avez des logiques du vote. Par exemple, on ne passe pas la ligne gauche-droite. Mais vous avez un groupe d'électeurs un peu indécis qui sont prêts à passer la ligne gauche-droite. Et donc là, vous avez, selon leur milieu social, culturel, il y en a qui seront tentés par l'abstention ou la gauche. Il y en a d'autres qui seront tentés. C'est les deux profils les plus fréquents, c'est abstention gauche ou abstention FN. Et puis vous avez aussi, en fonction du contexte politique, du choix des candidats du moment, qui peuvent vous déplaire, de l'enjeu de l'élection, des passages abstention droite. Non, c'est un vivier pour toutes les forces politiques, mais disons que c'est un vivier privilégié, un peu privilégié, pour le Front National, parce qu'il recrute justement chez des électeurs qui rejettent dos à dos la gauche et la droite. Mais d'autres partis, bien sûr, selon le contexte électoral, peuvent puiser des voix là-dedans. Vos chômeurs, dont vous parliez tout à l'heure, c'est un modèle. Ils peuvent se remobiliser en faveur de la gauche, comme ça s'est passé en 1997. Tandis qu'en 1997, les chômeurs s'étaient mobilisés plutôt en faveur du Front National. Tout dépend des candidats Tout dépend de l'élection, des candidats en présence, de ce qu'ils leur proposent, de l'offre politique.
Et est-ce que vous pensez que ce vivier, c'est un vivier pour Le Pen ou c'est un vivier proprement pour le FN? Ce qui est un petit peu distinct.
C'est un peu les deux, mais maintenant, il va falloir voir les effets de la crise, parce qu'effectivement, il y avait un effet Le Pen et un effet le FN qui jouaient. Et là, il y a quand même un grand désarroi dans l'électorat FN-Le Pen, parce que la dissension a mis... ils ont lavé leur linge sale en public. Il y a eu des révélations de chacun des camps sur l'autre. Et en tout cas, on le voit très clairement, même s'il faut manipuler les sondages préélectoraux avec des pincettes, parce qu'un Français sur deux ne sait pas s'il ira voter, ni pour qui il ira voter. Il doit y en avoir 38% qui déclarent s'intéresser aux européennes. Mais quand même, avant la scission, la liste Le Pen tout seul, elle recueillait 16% des intentions de vote. Depuis la scission, si on ajoute les scores, les intentions de vote Le Pen plus Maigret, on est aux alentours de 10,5. Donc il y a quand même un certain désarroi dans cet électorat. Et donc une partie importante de ces électeurs potentiels de Le Pen et du Front National risque de ne pas aller voter le jour des européennes.
Alors là, on va faire un saut complètement dans un autre des thèmes que vous abordez dans votre livre, qui est la dimension européenne, alors je ne sais pas si on pourrait peut-être même pas dire occidentale, de la montée quasi généralisée dans l'ensemble des pays européens d'une extrême droite, à quelques exceptions près, je pense que ça doit être lié aussi à la difficulté de se structurer à l'extrême droite, mais vous parlez quand même de l'exception française.
Je parle de l'exception française pour dire que c'est un faux concept, hein, c'est une expression à la mode, parce que nous ne sommes pas une exception. Nous sommes dans le peloton de tête des extrêmes droites européennes, mais nous ne sommes même pas les premiers. Aujourd'hui, si on prend les partis, là encore, définissons extrême droite comme les partis classés à l'extrême droite par les opinions publiques, eh bien, bien avant le Front National, vous avez le Parti libéral autrichien, dirigé par Georg Haider. Lui, il caracole allègrement en tête et il vient d'être nommé gouverneur de Carinthie. Mais donc, il fait des scores bien plus impressionnants, puisqu'aux dernières, aux premières européennes qui ont eu lieu en Autriche, le parti, le FPO, donc ce Parti libéral autrichien, faisait 26% des suffrages exprimés, hein, beaucoup plus que le Front National français, qui, aux dernières élections nationales, arrivait à 15% et aux dernières européennes, faisait 10,5%. Et puis, il y en a d'autres, dans des contextes toujours très différents. On n'aurait pas le temps, mais il faudrait étudier chaque pays spécifiquement. Mais en Italie, malgré sa transformation au congrès de Fiuggi, l'ex-mouvement social italien, l'Alleanza Nazionale, est de fini et considéré et classé à l'extrême droite par les Italiens. Et il est au même niveau électoral, même un peu plus haut que le Front National français, si on prend ses résultats aux dernières législatives italiennes. Enfin, juste à côté de chez nous, en Flandre, en Belgique, vous avez le Vlaams Blok, qui est tout près des résultats du Front National. Mais ce qui est intéressant, et c'est là aussi, permet de dire que ce n'est pas une exception française, c'est que tous ces pays européens où se développe électoralement une extrême droite, eh bien, les électeurs, ce sont des clones. Ils ont exactement les mêmes caractéristiques. C'est un vote plutôt jeune, plutôt masculin, plutôt de gens peu diplômés qui donc marchent mieux au simplisme de ces discours, plutôt des gens détachés de la pratique religieuse et plutôt des ouvriers. L'ouvriéro-lepénisme, il n'est pas spécifique à la France. En Autriche, il y a même encore plus d'ouvriers dans l'électorat du FPO qu'il n'y a d'ouvriers dans l'électorat du FN français. Donc il y a une similitude des profils et en plus il y a une similitude des motivations avec l'immigration, l'aspiration à l'ordre, la critique des élites, le désenchantement à l'égard des élites politiques. Donc, c'est très semblable. Qu'est-ce qui diffère d'un pays à l'autre? Leurs histoires nationales, le passé de la Seconde Guerre mondiale, le leadership, c'est très important, la structuration partisane et l'attitude des autres partis à l'égard de ces extrêmes droites. Et en fonction de tous ces facteurs, il y a des partis où l'extrême droite ne perce pas, la Hollande par exemple, et d'autres comme la France, où le Front National avant sa scission cumulait tous les facteurs favorables, un leadership, Le Pen, un parti bien structuré et implanté sur l'ensemble du territoire, et une attitude divisée de la droite et de la gauche à l'égard de la stratégie qu'il convenait de tenir à son égard, avec tout récemment, aux dernières régionales, des alliances qui lui donnaient de plus en plus de respectabilité. Bon, tout ça est remis en cause aujourd'hui avec la scission.
Il y a une notion historique aussi que vous mettez par là-dessus pour au moins quatre pays, qui sont l'Autriche, l'Italie, la France et l'Allemagne, vous dites qu'une des raisons aussi de ce vote extrême droite, c'est que c'est les quatre pays d'Europe qui ont mine de rien le moins bien dirigé leur période années 40.
C'est-à-dire, oui, il y a toujours le lien avec le passé de la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement, c'est très différent dans ces pays que vous avez cités. Il n'y a pas eu de dénazification comme il y en a eu dans un pays comme l'Allemagne pour des raisons évidentes. Donc, ça a permis... Bien sûr, l'extrême droite n'y est pas légitime, mais elle y a un peu plus de légitimité que dans un pays comme l'Allemagne, où à cause du souvenir de la Shoah, il y a eu des garanties constitutionnelles, il y a eu une véritable chasse aux nazis, et tout a été mis en place pour éviter que ça revienne jamais. Mais c'est intéressant parce que là aussi, il y a un paradoxe. D'une certaine manière, dans toute l'Europe, les extrêmes droites qui se sont développées électoralement l'ont fait en s'appuyant souvent sur des réseaux qui avaient des connexions avec les réseaux de la Deuxième Guerre mondiale ou avec l'histoire plus récente en France de la décolonisation. Enfin, on a une espèce de continuité des vagues d'extrême droite successives. Mais ceux qui réussissent le mieux électoralement et mieux que la France, c'est ceux qui, à un moment donné, décident qu'ils rompent avec le passé. Parce que pour réussir dans les démocraties aujourd'hui, il faut justement être clean par rapport à ce passé de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est pas un hasard si celui qui réussit le mieux, ce sont des pays comme l'Autriche, où ce parti est en fait issu de la droite parlementaire. Donc ce n'est pas tout à fait la même illégitimité que le Front National en France, ou bien l'Alleanza Nazionale en Italie, qui a fait son congrès, qui a pris le risque d'une scission et qui officiellement, là encore, ça serait un autre débat de voir ce qui se passe réellement à l'Alleanza Nationale, mais qui aujourd'hui se proclame un parti post-fasciste qui condamne solennellement l'antisémitisme et salue l'antifascisme dans la reconstruction italienne. Mais c'est un cas tellement particulier qu'on ne peut pas comparer à la France.
Alors le temps avance et vous allez bientôt devoir nous quitter. Moi, je voulais revenir à nouveau sur complètement autre chose. C'est sur les méthodes que vous avez employées, les diverses méthodes auxquelles vous avez recours pour faire cette analyse du Front National et de son électorat. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de quantitativisme dur,
quantitativiste forcené, empirico-maniaque? Non, ça veut dire que j'ai essayé de travailler avec les enquêtes du Centre d'études de la vie politique française, mais elles ont quand même un avantage, permettez-moi de défendre ces données empiriques, par rapport au sondage ordinaire, au sondage lambda, qui porte sur 1000 individus représentatifs de la population électorale. Quand vous avez 1000 individus, vous prenez des élections comme les européennes, vous en avez à peine 500 qui savent pour qui ils vont voter. Et puis là-dessus, si vous avez 2% pour la liste Maigret, vous voyez ce que ça donne en nombre d'individus, surtout quand on sait qu'il y a une réprobation morale attachée à l'expression d'un vote ou d'une sympathie à l'égard du FN, et que systématiquement, ce vote est sous-déclaré. Donc, on a des effectifs minables qui ne permettent pas de travailler sur ces électorats. Tandis que les enquêtes du CVPOF portent sur 3000 ou 4000 personnes. Et là, cela nous donne, pour la première fois, des échantillons conséquents de 400 à 500 personnes qui disent avoir voté pour le Front National. Et à partir de ce moment-là, on peut quand même tracer leur profil mieux que quand on se retrouve avec une trentaine d'individus comme les sondages ordinaires. Donc, c'est à partir de ces enquêtes, qui sont des grosses enquêtes en face-à-face, effectuées après les trois élections que j'ai analysées, 88, 95 et 97, mais qui nous apportent sur le profil non seulement des électeurs FN, mais des électeurs FN comparés à tous les autres électeurs, des données qu'on ne trouve dans aucun autre sondage. Alors bien sûr, il y a des limites. Les sondages, c'est une question, ça reste même très court, même si on les interroge pendant trois quarts d'heure, c'est insuffisant pour savoir ce que pensent vraiment les gens. Et il faut le compléter, j'ai essayé de le faire dans le livre, en prenant en compte tous les travaux faits à partir d'entretiens, les analyses plus qualitatives. Mais il faut les deux. L'analyse qualitative, elle nous permet de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un individu au moment de voter. Mais l'analyse empirique à partir de données de sondage nous permet de mesurer. Et donc, il faut les deux pour comprendre qui vote et pourquoi.
Et au niveau pratique,
Attends, tu n'as pas de micro, Hubert.
Au niveau pratique, comment ont été menées ces recherches alors,
au niveau pratique,
face à face, vous dites, oui. Vous êtes déplacé où,
alors,
en fonction de quoi, vous avez été là plutôt que là?
Alors, c'est des échantillons de sondage. On a travaillé en liaison avec un institut de sondage, mais c'est nous qui avons fait le questionnaire. Nous avons testé le questionnaire. C'est-à-dire, nous avons ce qu'on appelle piloter l'enquête. On suit les enquêteurs, c'est plutôt des enquêtrices d'ailleurs. On ouvre plus facilement sa porte à une femme qu'à un homme dans ce cas-là. Donc, on a suivi les enquêtrices.
Il y a moins de chances qu'elle vote Front National.
Et, exactement. Donc, nous avons suivi les enquêtrices pour voir si on comprenait nos questions, si ça avait un sens. D'abord, on a testé les questionnaires. Et ensuite, c'est un échantillon qui est construit selon la méthode des quotas, c'est-à-dire qu'on construit un modèle réduit de la population française en se fondant sur les données de recensement. Je veux dire, les enquêteurs sont répartis dans les différentes régions politiques françaises et ils ont chacun une feuille de route. Ils doivent trouver tant de cadres, tant d'ouvriers, tant d'hommes, tant de femmes, tant de catholiques et tant de non-catholiques. Donc, c'est ce qu'on appelle un échantillon sur quota. Et c'est là-dessus que l'on travaille, donc avec des échantillons, des entretiens en face-à-face qui durent à peu près trois quarts d'heure. Et ensuite, c'est nous qui faisons tout le traitement statistique.
Et puis, un des problèmes que vous nous expliquiez pour rédiger ce livre, c'est qu'il y avait une première version qu'on n'aurait pas compris, a priori, qui était une version très pro, avec plein de mots compliqués, qui est donc pas celle-là, puisque celui-là, il est tout à fait lisible.
Merci, parce qu'il m'a donné du mal. Non, j'ai essayé d'éviter les formules du genre l'analyse de régression quand on croise la variable A avec la variable B, une fois qu'on a contrôlé l'effet du sexe. Bon, j'ai essayé d'expliquer ça en langage plus... Je ne sais pas si j'y ai réussi, mais je m'y suis donné du mal, parce que j'ai passé trois mois à essayer de l'écrire de manière... simple, ce qui m'a rendu service, ça m'a obligé quelquefois à expliciter des choses qui n'étaient pas si évidentes quand j'essayais de les écrire, et j'ai mis les tableaux en annexe. Donc vous pouvez lire ça sans fatigue. Les accros des données empiriques pourront aller regarder en annexe des tableaux, et je tiens à leur disposition les données. C'est-à-dire, s'ils le veulent, ils peuvent retravailler dessus et peut-être qu'ils trouveront autre chose. Mais c'est ça qui permet, cet apport cumulatif qui permet de progresser dans la connaissance des électorats.
Bah donc voilà, on a fait à peu près le tour. On vous rappelle que le livre, c'est donc Nona Meyer, c'est Français qui votent FN et c'est publié chez Flammarion dans la collection Documents. Ça coûte 120 francs et 350 pages. Ah ouais, ouais, plus les tableaux. Hein. Et puis, ben, je pense qu'on aura, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais on aura peut-être l'occasion de se revoir, puisque non seulement vous étudiez les gens qui votent Front National, mais ceux qui luttent contre le Front National.
Ah oui, ça, c'était l'antidote indispensable. Après avoir travaillé trop longtemps sur les électeurs du FN, il fallait que je voie ce qu'il y a en face.
Et donc là, c'est dans le cadre de sciences politiques, si je me trompe.
Tout et toujours, on travaille avec des étudiants et avec des chercheurs sur l'ensemble des mobilisations. Et un des thèmes qui est le plus mobilisateur, et surtout chez les jeunes, c'est la lutte contre le Front National. Pour beaucoup, c'est devenu leur unique point de repère sur la scène politique française, se mobiliser contre ce qui leur paraît le danger maximum, le Front National. Donc il y a des centaines de réseaux et de collectifs avec les noms les plus variés, l'ADN, les Scalp, ce qu'il en reste, en tout cas, Ralfront, le manifeste, qui lutte localement contre le Front National et contre ses idées. Et donc, on a aussi mené des enquêtes auprès de ces militants-là.
Ben voilà.
Bah, merci d'être venu.
Merci de m'avoir écouté.
À très bientôt.
Les 403 sont renversés, la grève sauvage générale. Les fortes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel, la chaux au pied, l'arc de triomphe est renversé. La place Vendôme n'est que fumée, le Panthéon s'est dissipé. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les maquisards sont dans les gares, à Notre-Dame on tranche le lard. Paris retrouve ses fêtards, ses flambeurs et ses communards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Toutes les centrales sont investies, les bureaucrates exterminés. Les flics sont sans merci pendus à la tripaille des curés. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le vieux monde va disparaître après Paris, le monde entier. Les ouvriers sans Dieu, sans maître, autogestionnent la cité. Il est 5 heures, il est 5 heures, le nouveau monde s'éveille. Il est 5 heures, et nous n'aurons jamais
Voilà, donc c'était extrait d'une compilation pour en finir avec le travail qui vient d'être republié. C'était des textes de Debord et...
qui ont été réécrits par Debord, etc. Celui-là, il a été écrit au départ par... Comment est-ce qu'il s'appelle celui qui a écrit aussi pour Dutronc, le même air ?
Ah oui, Lanzmann.
Lanzmann, voilà.
Alors, on a reçu, dont on a écouté un extrait tout à l'heure, le disque de Joli Môme. Et sur le disque de Joli Môme, à la fin du en bonus track, on trouve un texte absolument magnifique qui écrit Manoukian, un des gars qui était sur l'affiche rouge, qui l'écrit à sa femme avant de mourir. Et donc, vu qu'il nous reste 5 minutes, on va vous passer ce texte. Et c'est donc une jolie môme qui récite.
Lettre de Missak Manoukian à sa femme, le 21 février 1944. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Je m'étais engagée dans l'armée de la libération en soldat volontaire et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté, de la paix de demain. Je suis sûre que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de n'avoir pu te rendre heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre, sans faute, et d'avoir un enfant pour mon bonheur. Et pour accomplir ma dernière volonté, marie-toi avec quelqu'un qui puisse te rendre heureuse. Tous mes biens et toutes mes affaires, je les lègue à toi, à ta sœur et à mes neveux. Après la guerre, tu pourras faire valoir tes droits à la pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à ma famille en Arménie. Je mourrai tout à l'heure avec mes 23 camarades, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n'ai fait de mal à personne, et si je l'ai fait, je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous sur mon cœur. Adieu. Ton ami, ton camarade, ton mari, Missak.
Bien, on vient d'écouter Jolie Môme qui disait un texte de Manoukian qui s'appelait La lettre à Mélinée. Enfin, c'était une lettre à sa femme Mélinée. On va donc se dire au revoir en se donnant rendez-vous semaine prochaine, même heure, même punition.
Même endroit. On se retrouve la semaine prochaine avec Johanna Siméan qui a écrit aux presses de sciences politiques un livre qui s'intitule La cause des sans-papiers, qui retrace un petit peu l'histoire des mouvements immigrés, en particulier pour le droit d'asile, contre la double peine et tout ça, qui, des années 60, 70 et 80. Et c'est un livre qui permet un petit peu d'avoir une perspective historique avant d'entamer l'histoire du mouvement actuel des sans-papiers. On se retrouve la semaine prochaine.
Super intéressant.
Au revoir.
Bonne semaine d'ici là. Ciao. Oh.